Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Nicolas Michelin, un des trois architectes urbanistes associés de l'agence ANMA. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je suis vraiment ravie qu'on puisse discuter ensemble. En deux minutes peut-être un petit peu ton parcours et puis surtout discuter de ce formidable projet, de cette expérience extraordinaire à Bordeaux avec vraiment un petit peu l'ADN de l'agence qui est l'urbanisme négocié. On va en parler parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'agence ANMA. Tu peux me parler un petit peu du parcours,
hein? Oui, avant de faire ANMA, je suis avec l'agence LabFac, avec Fingripple, jusqu'en 2000. On s'est fait connaître un peu avec la couverture des arènes de Nîmes, avec le projet du Métaphore d'Aubervilliers qui était assez emblématique, qui n'a pas été construit hélas. Puis en 2000, on se sépare et en 2000-2001, je crée l'agence ANMA, au début tout petit, puisqu'on est 3 ou 4. Et puis voilà, en 2010, on est plutôt 80 et aujourd'hui, on tourne autour de 60 de personnes. On est en train d'ouvrir l'agence, donc j'ai deux associés d'origine, pratiquement, ils sont venus tout de suite en 2001. Et là, on va ouvrir...
En collaborateur ?
D'abord en collaborateur, puis très très vite en associé.
D'accord.
Donc j'ai toujours eu deux associés, en fait. Michel Delplace et Cyril Tretout. Et maintenant, on va ouvrir, là, prochainement, en 2017-18, à des jeunes salariés de l'agence qui ont envie de participer à cette expérience. Voilà.
Formidable aventure. Pour reparler un petit peu de cette expérience de Bordeaux, qui est clairement identifiée agence ANMA, tu peux m'en parler un peu plus? Je sais qu'il y a plusieurs projets à Bordeaux, mais...
Oui, je suis invité à faire Agora en 2008 par Michel Larue-Charlu en tant que commissaire. Donc un passage très important pour moi, parce qu'il faut écrire. Donc, j'ai écrit quand même deux bouquins, puis trois, puis quatre. Le bouquin d'Agora, c'est le deuxième. Et on conceptualise beaucoup notre travail d'urbaniste, parce qu'on est à la fois architecte et urbaniste. On a une vingtaine d'urbanistes, une quarantaine d'architectes. Et on a aussi des paysagistes, il ne faut pas que je les oublie. Et Agora, c'est le démarrage d'une pensée urbaine beaucoup basée sur l'idée, qui est maintenant une idée complètement facile, mais c'est le site qui fait le projet, c'est le projet qui fait la règle. Voilà. Donc...
C'est-à-dire du contexte plus que du concept.
Voilà, d'abord le contexte, avant tout le contexte, en se pensant que la Terre a été assez martyrisée comme ça et qu'elle est un peu à bout de course, donc tous les projets urbains sont extrêmement importants pour pas seulement le réchauffement climatique, mais pour plein de choses, pour le lien social aussi, donc partir de l'existant, de cette histoire-là, faire du contemporain avec ça. Donc ça, on l'a thématisé, et puis après 2008, après Agora, en 2009-2010, on emporte le concours des bassins à flots. À la suite de Grimbach, qui avait fait une ZAC et qui ne sortait pas de terre pour des raisons aussi financières. Du coup, on se lance dans cette aventure assez incroyable, puisque c'est un PAE, donc un programme d'aménagement d'ensemble, qui est le dernier PAE de France, je crois, et le plus grand, puisque c'était...
Il y a combien de mètres carrés?
750 000 mètres carrés.
D'accord, oui.
Et en fait, on a mis au point cet urbanisme négocié en atelier, donc tout s'est fait en atelier. Donc moi j'étais recruté, j'avais pas fait encore le plan, puis ensuite j'ai fait un plan guide très très light, enfin, vraiment avec
pour pouvoir
foncières.
Négocier point par point les charges foncières et les projets avec les promoteurs et les architectes.
Oui, puisque le foncier appartenait à des privés. Donc on a fait une OAP avant les OAP. En fait, on a fait un secteur de projet, on a défini une règle, on a modifié le PLU tout de suite parce que sinon c'était pas possible. Et puis ensuite on a fait des volumétries partout, avec des surfaces constructibles qui étaient bien inférieures au PLU, ce qui autorisait le PLU. Donc ça a été une négociation avec les promoteurs très intéressante, y compris dans les choix des archis. On en est au 90e atelier aujourd'hui, sachant qu'un atelier c'est deux jours par mois, voilà, ça vous donne un peu la durée. Mais en 4 ans, on a sorti 550 000 m2, voilà. 88 architectes qui ont travaillé.
Mais l'arrivée des transports en commun a quand même boosté le projet. Ça a quand même, c'est parti.
C'est parti de ça, oui. Voilà. Cité du vin aussi.
Parce
qu'on
que sinon, il n'y avait pas. Oui,
il y a la station du tramway, il y a le tramway dans l'autre sens qui est pratiquement fini.
Parce que sinon, c'était un petit peu l'autre bout du monde par rapport au centre-ville.
Pour les
de Bordeaux,
oui. Mais quand tu regardes la métropole, c'est le centre
bien
du centre.
Bien sûr.
Et puis un projet d'espace public très, je veux dire un truc bizarre, mais très light aussi, parce qu'en fait l'espace public c'est des bassins, puis il est tellement magistral que tu vas pas faire une place ou un jardin, ça n'a pas de sens. Du coup c'était de tracer des rues au cordeau, des points hauts, des points bas, très dessiné à la ville quoi. Et ce qui est pas toujours ce qu'on demande aux urbanistes.
Et alors, c'était assez étonnant parce qu'il y a une densité qui est quand même très forte. Ce qui, par rapport aux petites échoppes,
alors, il faut bien
paraît
voir.
Complètement anachronique. Hein.
Oui, mais quand tu regardes bien, on est vraiment bas sur le côté Bacalan. On monte progressivement. Quand on a du R+1 en face, on fait du R+1, puis ensuite on met R+2, puis effectivement, on termine à R+8, voire plus. Et c'est une densité, mais qui, je sais pas comment le dire, qui s'apaise aujourd'hui. Parce qu'au début, il y avait des travaux partout, les rues n'étaient pas restructurées, donc ça gênait les gens. Et maintenant, je dois dire aujourd'hui, là, depuis 6 mois, les commerces sont ouverts, les écoles sont ouvertes, les gens sont dehors. C'est très, très, très émouvant pour un urbaniste de voir un quartier pareil sortir de terre. Alors après,
l'architecture... Alors le recul, justement, par rapport à l'architecture, par rapport à certains projets, est-ce que tu as des doutes ou des regrets?
Oui, j'ai plein... Si je te fais visiter les bassins, je te montrerai là, je suis pas content. Là, j'aurais jamais dû lâcher.
Je les ai visités plusieurs fois, mais pas avec toi.
J'aurais pas dû accepter cet étage en
j'avais
plus.
Pas la critique,
là, je me suis fait avoir par... Alors je dis « je », mais c'est « on » à chaque fois, parce que c'est vraiment un atelier. Hein. C'est la ville représentée par Michel Larue-Charlu assez souvent. La cube de l'époque, c'était Patrick dans Dieu, le port et nous-mêmes, Anne-Ma, et c'était vraiment constamment à quatre, tu vois, c'est-à-dire que nous, on disait aussi, bah là, on est en train de concevoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Et chacun donnait son avis. Et puis, c'est porté aussi, bon, après, il fallait des politiques, hein, donc...
Bien sûr, par le maire,
Vincent Feltès, qui était pour, complètement pour, ce qui était formidable.
Donc, il y avait un accord des deux, en tout cas.
Bien sûr, Alain Juppé, qui ensuite, en tant que président de la métropole, a amplifié encore le phénomène. Donc, moi, j'ai été porté, si vous voulez, il y avait une volonté d'Alain Juppé de faire ce quartier, de sortir de terre, s'appuyant sur Michel Larue-Charlu, et moi j'étais porté après.
Et alors, est-ce qu'il y a des propriétaires habitants ou peut-être un petit peu trop d'investisseurs? Parce que j'ai ouï dire que il y avait beaucoup d'investisseurs et que c'était un problème.
C'est une chose qu'on a peut-être ratée. Voilà. Ben, je dis ça, hein, c'est le service habitat aussi qui. C'est compliqué. Quoi,
alors, un urbaniste peut pas être complètement.
Non, tu peux pas dire là, je veux pas d'investissement.
Bah oui,
il y a beaucoup d'investisseurs. Il y a pratiquement la moyenne nationale, c'est-à-dire entre 70 et 85%.
Alors justement, qu'est-ce que ça fait comme type de quartier le soir ou est-ce que ça change le fait de ne pas avoir des propriétaires
occupants?
Est-ce que parce qu'il y a aussi des appartements qui sont vides?
Encore quelques-uns.
Ouais.
Les loyers, il y a encore marqué à louer par pas mal d'endroits,
j'ai vu.
Mais pas partout. Il y a beaucoup de logements sociaux quand même, 30% voire plus. Et je sais pas, j'attends encore un peu, j'attends encore le recul. Ce qui est bien, c'est que c'est un quartier qui est mixte sans qu'on l'ait vraiment décrété, gravé dans le marbre. En fait, ça s'est fait. Là, il y a une entrée d'école, là, il y a encore quelques artisans, là, il y a le port qui travaille encore un peu. Là,
il y a encore des activités des artisans?
Oui, il y en a encore, bien
d'accord.
sûr. Oui. Pas énormément, moins qu'avant, mais avant, il n'y avait que ça. Donc, et il y en avait très peu. Mais il y en a encore, oui. Et puis, il y a un petit peu de bureaux complètement différents des bureaux de l'Atlantique. Non, c'est un quartier assez étonnant et ce qu'on peut dire, c'est que les équipements publics sont un peu en retard.
Donc il y a, oui c'est ça, ça je m'en suis aperçu. D'ailleurs il y a eu récemment quelques interviews où quelques habitants se plaignaient d'avoir vraiment du mal à les écoles. Ouais c'est ça.
Ouais, il y a les écoles.
Alors est-ce à dire que la ville n'a pas mesuré le taux d'occupation et que c'était trop compliqué? C'est quoi?
Non, je ne lançais la pierre à personne. Je pense que la première école a été lancée, on a trouvé du radon, un site nucléaire, donc ils ont tout arrêté.
Donc c'était pas la peine. Ouais.
L'école de Ricciotti, qui avait gagné Rudy Ricciotti, mis à la benne. Après, le temps de trouver un autre terrain, l'autre n'était pas prêt parce qu'il y a de la pollution. Enfin, on n'a pas pris les choses, tout le monde, les services, à temps, et on en est à des écoles provisoires. Maintenant, le premier groupe scolaire a été décidé, là, ça y est, le deuxième est en jury, le gymnase aussi, les crèches commencent à être ouvertes. On rattrape le retard.
D'accord. Donc, il reste combien de mètres carrés encore, Nicolas?
Il reste ce qu'on appelle l'arrière-base, 130 000 mètres carrés.
D'accord. Il y a encore de quoi faire quelques années à Bordeaux?
Encore de quoi faire. Et puis, je suis relancé sur un nouveau site, avec un concours aussi que j'ai emporté sur Notes, etc., sur la Jalère. Donc, ça, c'est le dernier projet de Juppé, j'en sais rien, mais enfin, c'est un nouveau projet en face du stade.
D'accord.
C'est un projet nature en ville, peu de densité. de la maison individuelle en bande groupée à l'américaine, j'allais presque dire, quelques immeubles collectifs, pas mal d'activités. Donc c'est un projet qui est vraiment sur des zones humides, enfin qu'on préserve.
Donc peut-être sur pilotis, tu vas travailler sur pilotis.
Quelques pilotis, ouais. Mais surtout préservation des zones humides, corridors verts, grande ceinture de 30 mètres, on habite des clairières en fait. Mm-hmm. On fait des clairières, tac 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 tac, tout autour, en quadrillage, qui reprend l'ancien plan de Conrad qui était l'assainissement des marais. Et à l'intérieur, c'est vraiment le site qui a fait le projet là, et à l'intérieur on vient habiter ces clairières, soit avec de l'habitat, soit avec du bureau, soit avec de l'activité.
Donc il y aura des canards dans la mare ?
Il y aura des canards, il y aura plus que ça, des grenouilles. J'espère qu'il y aura autre chose que des ragondins, voilà, c'est ça qu'on... Mais c'est extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement nouveau, parce qu'on est dans des secteurs où d'habitude on ne sait pas trop construire, on met de l'activité parce que c'est Bordeaux Nord,
ouais.
C'est encore plus...
Mais je vois très bien.
Mais en fait, il y a une possibilité de faire un quartier vraiment, vraiment nature en ville, c'est vraiment complètement nouveau. Il n'y a pas de façade sur rue, par exemple, c'est que des arbres sur rue, donc... C'est assez étonnant. Ouais.
Et alors, il y aura un petit peu de riz dans les rizières, l'agriculture en ville étant quand même une panacée.
Il y aura des fermes éducatives, des fermes sur le côté, là, dans le corridor. Mmh. Il y aura un grand corridor vert qui va permettre d'aller jusqu'au bassin et puis ensuite au quai. Donc ça, c'est une liaison formidable.
Mais parce que ça, c'est ce qu'il manque un petit peu sur les bassins à flots. On a quand même une perception très, très, très minérale.
Alors ça commence à changer, je ne sais pas quand tu étais. Maintenant, il y a les centres qui sont ouvertes. Donc d'accord, il y a 3 km et demi de centres complètement plantés. Les gens se retrouvent là. C'est assez marrant le soir. Moi, j'y suis allé l'autre jour. Voilà, ils sont là. Il y a des gens qui jouent au ballon. C'est des centres. Hein, ils font entre 16 et 6 mètres de large, ça dépend. Elles sont tout le temps plantées, tout le long. Et elles sont publiques complètement et sans voiture. Et elles mènent au bassin. Et après, maintenant, il y a le paysagiste qui vient d'être nommé pour tout le tour des bassins. Parce que là, on va planter quand même un peu.
Beaucoup. Voilà. Bah, merci Nicolas. On arrive à la fin de cette...
Ça passe très vite.
Alors justement, je voulais te dire que là, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais comme souvent, pour certains invités qui ont à la fois beaucoup de choses à exprimer de leur travail, on n'a pas parlé d'urbanisme négocié suffisamment. Et surtout, on n'a pas parlé de l'écocité de Bobigny, sur lequel nous sommes voisins.
Voilà, nous sommes voisins.
Voilà. Et j'aimerais bien que nous puissions en parler la curiosité des auditeurs, que je sais importante sur le sujet, on se reverra peut-être à la rentrée.
D'accord, très bien.
Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.